parler aujourd'hui de l'islam. Je ne serai pas trop long pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je suivrai tout simplement un plan chronologique, mais en introduction, je voudrais dire un mot sur le mot islam. Alors, islam, c'est un mot arabe. L'arabe est une langue dite sémitique qui est très proche de l'hébreu, par exemple. On ne note que les consonnes, S, L, M. Et le sens premier de l'islam, c'est paix. Paix avec soi-même, par une soumission à Dieu. C'est pourquoi on dit parfois soumission, mais le terme exact, c'est paix. En étant soumis à Dieu, on est en paix avec soi-même. C'est la même racine que le mot hébreu « shalom », qui veut dire « paix », que « Salomon », que « Jérusalem », etc. Alors, passons au corps de cet exposé, le plan chronologique. Le prophète Mohammed est né vers 570 après Jésus-Christ et mort en 632. C'était un jeune homme qui vivait en Arabie et dont la profession était d'être caravanier, c'est-à-dire d'accompagner des caravanes le long des routes nord-sud qui remontaient jusqu'à l'actuel Iran en passant par l'actuel Irak, etc. En tant que caravanier, il était donc au contact avec de nombreuses populations et avec de nombreuses religions. Il n'était probablement pas allé à l'école, il ne maîtrisait probablement pas l'écriture et la lecture, mais par contre, il entendait oralement, car l'oral jouait un très grand rôle, ce que disaient les uns et les autres. Et dans ce Proche-Orient de l'époque, il y avait diverses religions. D'abord, à La Mecque, donc dans le sud de l'Arabie, il y avait des polythéistes qui adoraient plusieurs dieux ou déesses. Et c'est contre ces polythéistes qu'il s'est battu. C'était un petit peu comme la religion grecque ou romaine, il y avait plusieurs dieux, plusieurs déesses, et notamment trois déesses qu'on retrouve dans les fameux versets sataniques du Coran. Donc, contre ce polythéisme, il s'est battu. Il y avait également des communautés juives assez importantes et qui, au début, ont été les alliés de Mohammed. À partir de ce moment-là, il faut voir qu'il y avait également des communautés chrétiennes. Mais ces communautés chrétiennes étaient très, très divisées et elles se disputaient sur le fameux dogme de la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. La majorité des chrétiens croyaient qu'il y avait un Père, un Fils, un Esprit égaux, mais dans certains conciles, ces chrétiens se sont disputés et une minorité a refusé ces dogmes. Notamment ceux qu'on appelait les Nestoriens qui étaient présents en Mésopotamie, qui sont toujours présents en Irak, qui pensaient que Marie était la mère de Jésus mais pas la mère de Dieu. Et puis les monophysites qui sont aujourd'hui encore présents au Proche-Orient, notamment chez les Coptes d'Égypte dont on a parlé, et qui pensaient que Jésus était vraiment Dieu, mais pas vraiment homme. Alors pourquoi ces disputes? Beaucoup pour des questions de langue et de traduction. C'est-à-dire que ces conciles à Nicée, à Constantinople, à Éphèse, à Chalcédoine, c'est-à-dire sur le territoire de l'actuelle Turquie, la langue officielle était le grec. Or, ces chrétiens d'Orient avaient d'autres langues, comme l'araméen et un début d'arabe, et ils ne comprenaient pas le grec, et les traductions étaient très difficiles. Donc, quand le prophète Mohammed était jeune, ces chrétiens minoritaires du Proche-Orient ne croyaient pas tout à fait qu'il y ait une Trinité. Ça jouera un très grand rôle dans la prédication du Coran. Alors, ce jeune Mohammed est caravanier, et puis il va avoir une révélation par l'ange Gabriel. Gabriel, ça veut dire le héros, le fort de Dieu. C'est lui-même qui avait annoncé à Marie qu'elle serait mère de Jésus. Et d'ailleurs, dans le Coran, on retrouve cet épisode de Gabriel qui annonce à Marie qu'elle sera mère de Jésus. La différence, c'est que Jésus, pour les chrétiens, c'est le Fils de Dieu, et pour les musulmans, c'est seulement un prophète. Alors, ce caravanier, Mohammed, qui par ailleurs est orphelin, qui a une vie difficile, il a cette révélation par l'ange Gabriel. Lui, il pense qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est unique. Mais le problème, c'est qu'à la Mecque, la croyance majoritaire est polythéiste. Il va donc être chassé de la Mecque. Il va devoir partir un peu plus loin dans le nord, à Médine. C'est ce qu'on appelle l'Hégire, H-E-G-I-R-E. C'est-à-dire l'exode, le départ vers une ville où il va, avec ses compagnons, pouvoir pratiquer la foi en un Dieu unique dont lui est le prophète, le dernier prophète, alors que Jésus est l'avant-dernier. Et il va, avec ses compagnons, pratiquer cette nouvelle religion de l'islam, qui est la religion en un Dieu unique. Il va la pratiquer en faisant la prière 5 fois par jour. Il va la pratiquer en faisant l'aumône, la zakat. Il va la pratiquer en faisant le jeûne, le ramadan, qui la première année était au mois d'août. Ramadan, ça veut dire chaleur. Et comme le calendrier musulman évolue d'année en année, on peut désormais avoir le ramadan en hiver. Et puis, il va la pratiquer en affirmant très fortement l'unité, l'unicité de Dieu. C'est un point capital contre les chrétiens qui croyaient en un Dieu un et trois, la Trinité. En ce sens, on peut dire que l'islam, c'est un monophysisme total, radical. Dieu n'a qu'une nature divine, pas humaine. Et le prophète lui-même, à la différence de Jésus, n'est pas Dieu, il est un homme exceptionnel, mais il n'est pas divin. Donc prière, aumône, ramadan, unicité de Dieu, puis plus tard, pèlerinage à la Mecque, ça fera les 5 piliers de l'islam. Donc il est à Médine. Le problème, c'est qu'il y a une rivalité économique, car les commerçants de la Mecque tiennent à leur croyance polythéiste, qui rapporte aussi de l'argent. Il y a un culte, il y a des cultes, et donc la guerre va s'engager. Elle va s'engager avec 3 batailles fondamentales. La première sera la bataille de Badr, en 623 à peu près, qui sera une victoire pour le prophète. Car le prophète va, avec l'armée de ses compagnons, prendre un point d'eau, une oasis, et donc les autres, les caravaniers de la Mecque, vont être assoiffés. Mais les polythéistes de la Mecque prendront leur revanche l'année suivante, bataille de Uhud, avec probablement une défection des soldats juifs qui, à l'époque, combattaient dans l'armée musulmane. Donc une première friction entre les juifs et les musulmans. Mais la 3e bataille, la bataille du fossé, sera une victoire du prophète, grâce à une technique militaire probablement empruntée à l'Empire perse, qui consistait à faire une tranchée, un fossé, pour empêcher l'armée ennemie de se battre et de tuer les fantassins. Donc, en fait, il est victorieux. Et à partir de cette bataille du fossé, la porte de la Mecque lui est ouverte. Il va arriver à la Mecque sans se battre. Et peu après, il va mourir en 632 après Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, on peut dire que le prophète Mohammed a rempli son rôle. Car non seulement il a révélé la religion qu'il a reçue oralement de l'ange Gabriel, mais encore il a fait l'unité de l'État. C'est un point important. Unité de Dieu, unité de l'État. En effet, en Arabie, jusque-là, il y avait quelques petits royaumes à l'est, au Yémen, royaume de Saba, etc., la fameuse reine de Saba, mais le reste était un peu des tribus éparses. Or, il a unifié toutes les croyances polythéistes, il a fait une seule foi, un seul Dieu, une seule religion, un seul culte et un seul État. Quand on se demande parfois si l'islam est soluble dans la démocratie ou la laïcité, une question qui n'est pas très bien posée. Il faut voir que, historiquement, l'islam et l'État sont apparus en même temps en Arabie. Et à partir de cette époque, 630, 632, 632, mort du prophète, il va y avoir une expansion extraordinairement rapide de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a deux grands empires. Premier empire, c'est l'empire romano-byzantin. C'est plus tout à fait Rome, puisque vous le savez, les « entre guillemets barbares » ont pillé Rome depuis deux siècles, donc c'est un empire dont la capitale est à Constantinople, qui désormais s'appelle Byzance, et qui aujourd'hui s'appelle Istanbul. C'est ça l'empire romano-byzantin. Or, cet empire romano-byzantin est très divisé par les querelles entre chrétiens. Les chrétiens majoritaires qui croient en la Trinité, et puis les chrétiens minoritaires qui croient un peu différemment à la Trinité, les nestoriens et les monophysistes. Et comme le dit la Bible, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Cet empire romain, romano-byzantin, très divisé et affaibli. D'autre part, les Arabes de Mohammed ont des petits chevaux, très habiles, très rapides. Alors, je vous signale que le cheval joue un rôle essentiel dans l'islam. D'ailleurs, le prophète aurait fait un voyage céleste à Jérusalem sur sa jument Bouraka. Et c'est une des raisons pour lesquels vous avez beaucoup de musulmans aujourd'hui qui jouent au PMU, alors que les jeux de hasard sont condamnés par le Coran. Mais le PMU, c'est de la science hippique. C'est pas totalement du hasard. Le prophète et les Arabes maîtrisaient bien l'art du cheval. Ils maîtrisaient l'art du chameau pour les caravanes, mais l'art du cheval. Et les armées arabes enveloppaient les lourds bataillons de l'armée romano-byzantine et ils ont été presque toujours victorieux. Deuxième empire, l'empire perse, l'actuel Iran, même problème. Des infanteries lourdes qui manœuvraient mal et un empire divisé, non pas sur le plan religieux, mais sur le plan administratif en régions, ce qu'on appelait les satrapies, qui s'étendaient en Iran et en Afghanistan, un empire fragile. Et en l'espace d'à peu près 20 ans, les armées arabes ont battu l'Empire romano-byzantin, l'Empire perse, et sont entrées à Jérusalem, qui venait d'être conquis par les Perses. Tout ça en 20 ans. Donc une expansion extraordinairement rapide. En une génération, tout le Proche-Orient devient musulman, en grande majorité. Problème qui va se poser, c'est la succession du prophète quand il meurt en 632. Le grand drame de l'islam, c'est que le prophète a eu des enfants, il avait plusieurs épouses, plusieurs enfants, mais seules les filles ont survécu. Ces garçons sont tous morts en bas âge. Qui va être le successeur ? Au début, on a dit, le successeur sera un homme capable, un compagnon de Mohammed. Donc, on va choisir un successeur, en arabe calife, et ce calife va diriger la communauté musulmane à Damas. C'est ce qu'on appelle la dynastie Omeyyade, D'ailleurs, il y a toujours la mosquée des Omeyyades à Damas. Mais dans la famille de Mohammed, il avait un gendre, qui était aussi son cousin, qui s'appelait Ali. Et il va dire, moi je suis de la proche famille du prophète, puisqu'il n'a pas eu de fils, c'est moi qui dois lui succéder. D'où une dispute entre les califes, les successeurs de Damas, et puis Ali. Et Ali va jusqu'à dire, d'après ses disciples, qu'il était le fils adoptif du prophète. C'est un mauvais souvenir pour l'islam, c'est la raison, je vous signale, pour laquelle l'islam ne reconnaît pas l'adoption. Et les successeurs, les califes de Damas et Ali vont se battre. Il y aura eu plusieurs batailles sur le territoire de l'actuel Irak. Il y aura des victoires, il y aura des défaites, ça va être sanglant. Ali aura lui-même un fils, Hussein, qui lui-même se battra, sera battu, etc. Et les deux villes de Najaf et l'autre Karbala en Irak commémorent ces morts et ces martyrs de Ali et de Hussein. À partir du moment où toute réconciliation est impossible entre les partisans du calife et ceux de Ali, il y aura une scission, un schisme. Et les partisans de Ali, on va les appeler les chiites. Littéralement le parti, hein, ceux qui se sont séparés des autres. Et ces partisans de Ali, ces chiites, ils vont se développer en Irak, hein, ultérieurement, mais bien plus tard, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, etc. Ils forment à peu près 15% de l'islam. La grande majorité seront ce qu'on appelle les sunnites, la sunna étant la tradition issue des califes successeurs de Mohammed, issue bien sûr du Coran et issue des dires, des propos tenus par le prophète qu'on appelle les hadiths. Car dans l'islam, il y a une loi écrite, la charia, mais il y a aussi une loi orale issue des hadiths. Un petit peu comme dans le judaïsme, il y a une loi écrite, hein, la Torah, puis il y a une loi orale qui sera consignée dans les Talmuds. Cela étant, le temps passe et le problème est de savoir comment la révélation reçue par le prophète depuis l'ange Gabriel va se transmettre. Faites l'expérience. On vous dit quelque chose, vous le dites à une deuxième personne qui le dit à une troisième, au bout de 10 ou 12, c'est complètement transformé. Donc il a fallu mettre ça par écrit. Et à peu près 20 ans, 30 ans après la mort de Mohammed, le Coran sera mis par écrit. Il sera mis par écrit dans des sourates, c'est-à-dire des versets, qui sont de longueur décroissante et qui ne sont pas chronologiques. C'est-à-dire que, en réalité, les premières sourates, ce qu'on appelle les sourates plutôt de Médine, sont les dernières révélées au prophète, hein, et les dernières dans le texte du Coran, les sourates de la Mecque, sont probablement antérieures. Or, c'est pas pareil. Parce que quand le prophète était à Médine, il était en situation de guerre, de combat avec les polythéistes de la Mecque. C'est souvent des sourates plus dures, plus violentes. Alors que quand il était à la Mecque, il n'y avait pas encore la guerre, c'est des sourates beaucoup plus spirituelles. Et notamment le fameux djihad, le fameux combat. Dans les sourates de Médine, c'est plutôt un combat militaire. Et dans les sourates de la Mecque, c'est plutôt un combat spirituel. Vous voyez, il y a plusieurs époques dans la révélation qui correspondent à des situations différentes. Alors, le Coran est mis par écrit. Il est mis par écrit dans une langue, l'arabe, qui est une langue assez nouvelle à l'époque, qui dérive d'autres langues sémitiques, et dans une écriture qui est aussi nouvelle, et qui est une évolution d'autres écritures sémitiques. Ce qui fait que, de la même façon que l'État et l'islam sont inséparables, la naissance de l'État et de l'islam, de même, la naissance de la langue arabe, de l'écriture arabe et du Coran, c'est à peu près la même époque. Ce qui veut dire que la langue arabe, l'écriture arabe, ont aussi un caractère sacré, ce qui signifie très clairement qu'encore aujourd'hui, dans toutes les mosquées de la planète, on fait la prière en arabe. Bon, voilà à peu près ce qui se passe à ce moment-là. Alors, je continue un peu chronologiquement. On arrive au 8e siècle. La capitale des califes va quitter Damas pour aller à Bagdad. Ce ne sera plus les Omeyyades, ce sera les Abbasides qui seront les califes. Alors ça, c'est une époque, si vous voulez, d'or, un âge d'or. Bagdad étant une capitale prospère, étant une ville où il y a des arts, des lettres, le conte des mille et une nuits, une grande ville de culture, et c'est une période assez pacifique pour l'islam. Au même moment, l'islam est allé rapidement en Afrique du Nord, hein, en suivant la côte, Égypte, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, et elle est remontée, vous savez, jusqu'à Poitiers, où là, l'avancée de l'islam sera arrêtée. Et là, les Arabes vont rencontrer les populations locales, les Berbères, qui étaient des chrétiens, en partie, et qui seront islamisés. Et de même, à l'est, les Arabes vont aller jusqu'au fleuve Indus, jusqu'à l'Inde. Ce qui fait que Mohammed est mort en 632, et 80 ans plus tard, en 711, ils sont allés jusqu'au sud de la France et jusqu'aux portes de l'Inde. C'est extraordinaire comme expansion militaire. À ce moment-là, il y aura plein de problèmes qui vont se produire, il y aura des changements dynastiques, il y aura une épreuve pour l'islam vers le XIIe siècle, qui sera l'arrivée des croisés latins, qui partiront de France, hein, de la ville du Puy et de Clermont-Ferrand, pour essayer de reprendre la ville de Jérusalem et le tombeau du Christ. Il y aura 7 ou 8 croisades, et puis finalement, les croisés seront battus, et l'islam confortera son rôle de religion dominante au Proche-Orient. En effet, il n'y a plus vraiment de juifs à l'époque, mais il y a toujours des chrétiens. Ils ont un statut inférieur, qu'on appelle dhimmi, mais progressivement, le nombre de chrétiens va baisser et le nombre de musulmans va augmenter. Les chrétiens vont se convertir en islam pour plusieurs raisons, dont l'une est que, en tant que chrétiens, ils sont soumis à un impôt supplémentaire. Alors, pour prendre l'exemple récent de l'Égypte, les Coptes, qui sont les habitants originels de l'Égypte, ils étaient nettement majoritaires au début de l'islam, et ils deviennent minoritaires à partir du XIIIe, XIVe siècle. Ensuite, l'islam va connaître une nouvelle expansion. Et cette fois-ci, ça ne sera plus une expansion militaire, mais commerçante. Ils arrivent progressivement en Inde. Il y aura des heurts très durs avec les hindous, les hindouistes. Mais les Arabes vont ensuite, à partir de l'Inde, aller jusqu'en Indonésie et en Malaisie, grâce aux bateaux. Les fameux marins malabar, les malabars, vont porter l'islam pacifiquement jusqu'en Malaisie et en Indonésie. Et puis d'autre part, grâce à la domestication du chameau, les caravanes vont pouvoir traverser le Sahara et vont arriver jusqu'en Afrique subsaharienne, jusqu'au Nigeria par exemple. Donc, l'islam, à ce moment-là, devient une religion qui est étendue sur à peu près presque toute la surface de l'Asie, au moins en partie, et une grande partie de l'Afrique. Pour vous donner un exemple, les musulmans iront jusqu'au nord de la Chine. Il y a encore aujourd'hui une très belle mosquée à Xi'an, dans le nord-est de la Chine. Ils seront dans l'ouest de la Chine, les fameux Ouïghours, etc. Et donc presque toute l'Asie a connu des communautés musulmanes plus ou moins importantes. Et de la même façon, en Afrique, ils vont arriver à peu près jusqu'à l'équateur, en gros. D'autre part, en Afrique de l'Est, ils vont longer l'océan Indien, Égypte, Soudan, ils vont aller à peu près jusqu'en Ouganda, par là. Par contre, en Europe, après le retrait de Poitiers, ils vont être progressivement chassés du sud de la France, puis chassés d'Espagne. Vous avez peut-être étudié le Cid de Corneille qui parle du combat des chrétiens contre les musulmans. Et en 1492, ils sont complètement chassés de l'Europe du sud-ouest. Dans l'Europe de l'Est, par contre, ils seront très présents et l'Empire romano-byzantin ne cessera de reculer. Ils vont prendre Constantinople, devenue Byzance, devenue Istanbul, en 1453. Et ensuite, ils vont continuer leur avancée vers l'Europe de l'Est, puisqu'ils vont mettre le siège devant Vienne. Mais ils ne parviendront pas à prendre Vienne. D'autre part, leur marine sera battue au XVIe siècle dans une grande bataille qui s'appelle la bataille de Lépante et qui marquera la fin de l'expansion de l'islam et le début un peu d'un certain déclin de l'islam dans cette région du monde. Le grand empire à ce moment-là, en 1453 et ensuite, c'est l'empire ottoman, capitale Istanbul. Et cet empire ottoman, c'est lui qui a le califat, c'est-à-dire la succession du prophète. L'empereur ottoman est celui qui a la direction spirituelle de la communauté musulmane dans le monde. Cet empire ottoman, qui a connu son apogée au XVIe siècle, va progressivement régresser. Il y aura certaines des possessions d'Afrique du Nord qui seront prises par les Européens, l'Algérie à partir de 1830, le Maroc, la Tunisie, et puis la Libye. Il y aura également un certain recul en Europe de l'Est, et surtout cet empire ottoman va faire la guerre de 14-18. Allié à l'empire allemand, allié à l'empire autrichien, contre les Russes, et contre les Français, les Anglais et les Américains. Et ce sera un désastre pour l'islam, parce que l'Empire ottoman sera battu, comme l'Allemagne, comme l'Autriche. Et là, c'est votre programme d'histoire, je crois, le premier, il me semble. Il y aura un traité de Versailles avec l'Allemagne, un traité de Saint-Germain avec l'Autriche, un traité de Sèvres avec la Turquie, complété par un traité de Lausanne. Et à ce moment-là, l'islam n'a plus de calife. Il n'y a plus de successeur du prophète qui dirige toute la communauté musulmane du monde. Et c'est un drame pour l'islam, parce que désormais, qui commande? Les catholiques ont un pape, l'islam n'a pas de hiérarchie religieuse. Les religieux, les imams, sont égaux. Certains ont plus de prestige, mais c'est tout. Les chiites ont une hiérarchie avec des ayatollahs, etc., mais les sunnites n'en ont pas. Qui est le chef de l'islam? Et c'est à partir justement des années 1920 que vont se développer un certain nombre de mouvements, comme les frères musulmans par exemple en Égypte ou dans le Proche-Orient, ou les takdim en Inde, qui seront des mouvements spirituels qui vont chercher à redonner une dynamique à l'islam, et à redonner un rôle à l'islam dans la société. Depuis que le califat n'existe plus, on ne sait plus trop qui peut donner de l'impulsion ou du dynamisme à l'islam. Ces problèmes vont continuer un peu tout au long des années 20, 30. N'oublions pas qu'il y a l'URSS à ce moment-là, qu'il y a des musulmans dans certaines républiques du RSS, mais l'URSS est athée, donc ces musulmans ne sont pas très heureux. D'ailleurs, ensuite, il y aura la guerre d'Afghanistan entre l'URSS athée et puis les Afghans musulmans. Donc l'islam doit lutter contre l'athéisme de l'URSS, mais en même temps, l'URSS va souvent soutenir des pays musulmans en lutte contre des puissances occidentales. Et puis, il y a le gros problème palestinien qui lui aussi est issu de la Seconde Guerre, de la Première Guerre mondiale. Puisque en 1916, très exactement en juillet 1916, les soldats anglais qui montent à l'assaut des tranchées allemandes sont battus, il y aura 60 000 morts. Et à ce moment-là, un chimiste anglais originaire de Russie et juif, Weizmann, va proposer à l'état-major anglais de mettre ses découvertes, un procédé à base d'acétone, au service de l'artillerie anglaise pour améliorer la puissance des obus. Et en même temps, il va proposer le lobbying de ses amis juifs américains pour que les États-Unis entrent en guerre. Et en échange, les Anglais promettent aux Juifs ce qu'ils ont appelé un foyer national juif en Palestine. C'est la déclaration de Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, en 1917. Paris gagné, l'artillerie anglaise s'améliore, les États-Unis entrent en guerre, et on promet un foyer national aux Juifs en Palestine, sans trop préciser ce qu'est un foyer national. Mais au même moment, comme les Anglais et les Français sont les adversaires de l'Empire ottoman, et que cet Empire ottoman règne sur tout le Proche-Orient, l'Arabie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, les Anglais promettent un royaume arabe aux Arabes s'ils se révoltent contre les Ottomans. C'est ce qu'ils font avec l'aide du fameux Lawrence d'Arabie, un Anglais. Ils vont chasser les Ottomans, les Turcs, du Proche-Orient, et du même coup, les Anglais et les Occidentaux ont promis, mais surtout les Anglais, ont promis une même terre à deux peuples, les Juifs et les Palestiniens arabes. D'où l'énorme problème qui s'est posé dans toute cette région du monde depuis le début du XXe siècle. Et on arrive bien entendu à la création de l'État d'Israël en 1948, reconnu par toutes les puissances membres du Conseil de sécurité, y compris l'URSS. On arrive à la guerre des six jours, on arrive à tout ce que vous connaissez et à tous les problèmes du Proche-Orient. En même temps, avec la mondialisation, les Arabes ou d'autres peuples musulmans vont arriver dans d'autres parties du monde, puisque aujourd'hui, il y a seulement un sixième des musulmans qui sont arabes. Ils vont arriver en Europe, en France, en Angleterre, ils vont arriver aux États-Unis, et donc l'islam se mondialise, il est désormais présent sur les cinq continents de la planète. Alors, j'en arrive un petit peu au tableau, si vous voulez, actuel de ce monde musulman. L'islam est la deuxième religion du monde avec 1,3 milliard de musulmans. Et musulman, toute personne dont le père est musulman. La première religion, c'est le christianisme, 2 milliards de baptisés. La deuxième, c'est l'islam, 1,3 milliard, dont environ 15% de chiites, surtout présents en Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, un petit peu Afrique de l'Est. Alors, qui sont ou quels sont les premiers pays musulmans du monde? Pour comprendre, pour revenir un petit peu en arrière, en 1939, quels étaient d'après vous les trois premiers pays musulmans du monde? Je crois que celui qui trouve la réponse, il a 20 sur 20 en histoire au bac, ça c'est sûr. Quel était le premier pays musulman du monde en 1939? Hein? C'est pas... Premier prix d'histoire au concours général à celui qui connaît la réponse. C'était la Hollande. Avec sa colonie, l'Indonésie. Mais l'Indonésie était en droit international une colonie hollandaise. Quel était le deuxième pays musulman ? La Grande-Bretagne, avec sa colonie l'Inde. D'ailleurs, j'ai peut-être un tout petit peu inversé, je pense que la Grande-Bretagne était premier, la Hollande deuxième. Je pense qu'il y en avait un petit peu plus en Inde quand même qu'en Indonésie. Donc ça ferait un Grande-Bretagne, deux Hollande et trois France, oui. Puisque dans l'Empire français de 100 millions d'habitants, il y avait 30 millions de musulmans, dont 7 millions dans les départements français d'Algérie, vous voyez. Donc, Grande-Bretagne, Hollande, France. C'était l'époque coloniale. Bon, maintenant c'est fini l'époque coloniale. Premier pays musulman du monde, l'Indonésie. Deuxième, le Pakistan. Troisième, le Bangladesh. Quatrième, l'Inde. Quatre pays à l'est du fleuve Indus. Donc l'islam est de plus en plus extrême oriental. Et bien entendu, ni les Indonésiens, ni les Bengalis, ni les Pakistanais, ni les Indiens ne sont des Arabes, hein, c'est évident. Bon. Ensuite, on trouve l'Iran, l'Égypte, la Turquie, etc. En dixième, le Maroc, en onzième, l'Algérie. Vous voyez donc, de plus en plus, l'islam est une religion extrême orientale, une religion qui se trouve en concurrence, non pas du tout avec le christianisme, hein, avec l'hindouisme, beaucoup plus en Inde, avec le bouddhisme, le taoïsme, les religions chinoises, etc. Et c'est une religion qui, encore une fois, de plus en plus, se trouve dans la partie la plus dynamique du monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'Asie, le continent qui mène l'économie mondiale. Bon, il est bien sûr très présent au Proche-Orient. La frange Afrique du Nord joue encore un grand rôle, le bassin méditerranéen avec la Turquie, et puis l'Afrique de l'Ouest, et de l'Est jusqu'à l'Équateur. Le pourcentage de la population mondiale qui est de religion musulmane, augmente légèrement, car le taux de natalité est relativement plus fort dans les pays musulmans, compte tenu de la pauvreté de la majorité de ces pays. Donc si, en un siècle, la population de la planète a été multipliée par 5, la population de l'islam a été multipliée, en gros, par 6. Vous allez me dire, tout ça, c'est extrêmement loin. Alors, si maintenant on arrive à des pays qui sont plus proches de nous, mettons l'Europe, on a un phénomène qui est essentiellement d'ordre technique et économique, c'est-à-dire d'une part l'avion, hein, qui met les villes d'Afrique du Nord à 2 heures de Roissy, et d'autre part l'économie, en ce sens que dans une période de plein emploi, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses entre 45 et 75, les pays d'Europe de l'Ouest ont fait venir des travailleurs assez nombreux de pays du Sud et notamment de pays d'Afrique du Nord, pour la France, la Belgique, et la Grande-Bretagne a fait venir de la main-d'œuvre plutôt issue de l'ancien Empire des Indes, notamment du Pakistan. Donc le fait nouveau, c'est qu'il y a un islam européen assez important. Je rappelle qu'en 1914, il n'y avait pratiquement aucun musulman en France. Les premiers musulmans qu'on a vus, c'est les malheureux soldats qui se sont fait tuer dans la guerre de 14, et c'est en hommage à eux qu'on a construit la mosquée de Paris. Et depuis ce temps-là, le pourcentage de la population musulmane a augmenté. En France, combien y a-t-il de musulmans ? On ne le sait pas exactement, puisqu'on n'a pas le droit de faire des statistiques religieuses et ethniques. On dit que ça serait autour de 5 millions sur 65 millions de Français. Mais attention, on compte tous ceux, encore une fois, qui sont fils ou filles de musulmans, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient une pratique. Voilà à peu près quel est le tableau de l'islam dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a une actualité qui nous fait penser au berceau de l'islam, le Proche-Orient. qui est aussi le berceau du christianisme. Et c'est tout le problème de l'actualité. Si vous prenez la question des Coptes d'Égypte, des chrétiens d'Irak, etc., quel est le problème ? Le problème, c'est que ce Proche-Orient, c'est la terre qui a vu naître Jésus, qu'il soit fils de Dieu ou prophète, peu importe, hein, que les chrétiens se sont répandus dans tout le Proche-Orient assez rapidement, qu'ils ont supplanté les anciennes religions polythéistes, les Juifs ayant dû quitter le Proche-Orient à l'issue de la conquête de Jérusalem par les Romains, hein, la deuxième conquête en 135, hein, où les Juifs se sont répandus en Europe ou à Babylone parce qu'ils étaient expulsés de Jérusalem. Donc il y avait essentiellement des chrétiens. Des chrétiens dans tout ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire toute la région qui va de Mésopotamie en Égypte. Et quand l'islam est arrivé à partir du 7e siècle, progressivement, les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux au détriment des chrétiens. Alors, ces chrétiens du Proche-Orient, ils sont extrêmement divisés en une quinzaine d'églises différentes qui relèvent de traditions différentes. Et les événements du XXe siècle ont énormément compliqué la vie de ces chrétiens, dont beaucoup sont des Arabes, et pris Allah, puisque Allah, c'est le nom de Dieu en arabe, qu'on soit chrétien ou musulman. Et donc leur situation est devenue progressivement plus difficile, d'autant que le conflit israélo-palestinien a encore augmenté ces tensions. Pour vous donner un exemple, hein, en Israël-Palestine, en 1948, 25% de la population était chrétienne, aujourd'hui seulement 2%. En Irak, le nombre de chrétiens a été divisé par deux depuis 20 ans, depuis les deux guerres du Golfe. Et donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si au Proche-Orient, il y a place pour un pluralisme religieux, pour des chrétiens et des musulmans, sans même parler des juifs, bien entendu, dans l'État d'Israël. Une question qui se pose sans arrêt et qui n'a pas forcément de réponse évidente, comme l'ont montré les derniers événements. En ce qui concerne notre pays, la France, c'est très très curieux de constater que nous avons notamment en région parisienne un petit raccourci de la diversité des descendants de ce qu'on appelle les fils d'Abraham, puisque musulmans, juifs et chrétiens se réclament d'Abraham. En région parisienne, nous avons bien sûr une communauté catholique importante, catholique romaine, nous avons des protestants, des orthodoxes, nous avons des juifs, nous avons des communautés chrétiennes proche-orientales, il y a des coptes, il y en a à Châtenay-Malabry, il y en a à Villejuif, en région parisienne. On a des chaldéens, des chrétiens irakiens, on en a à Sarcelles, hein, dans le Val-d'Oise. Donc en réalité, la région parisienne, c'est un petit peu un raccourci, hein. Un Proche-Orient en miniature, si vous voulez. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de conflits, espérons que ça durera, mais il est évident que dans les années à venir, le problème numéro un sera la coexistence entre ces diverses communautés, qui est extrêmement difficile. Alors, il y a un petit village en Israël qui s'appelle Neve Shalom, qui veut dire « oasis de paix ». Un petit village qui a été créé dans les années 1970 et où coexistent des juifs, des musulmans et des chrétiens. Chez les enfants, ça se passe bien. Chez les adolescents, ça se passe bien, pourvu que les garçons d'une religion ne fréquentent pas trop une fille d'une autre religion. Jusque-là, ça va à peu près. Là où ça devient plus difficile, c'est la question des mariages, puisque la question des mariages, c'est aussi celle des enfants et donc de l'éducation des enfants. Dans quelle religion un enfant sera éduqué? Est-ce la religion du père? Est-ce la religion de la mère? Pourra-t-il avoir le choix? La question n'est toujours pas résolue. C'est pourquoi aujourd'hui je suis totalement incapable de vous dire ce que sera l'avenir de l'islam par rapport aux autres religions de la planète, l'avenir n'est écrit nulle part, et d'autre part, je ne suis pas prophète. Je vous remercie de votre attention, et maintenant vous posez toutes les questions que vous voulez.